Plus près de toi.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Près, très près.
Plus près de toi.
Très, très, très près.
C'est le titre de l'émission.
Vous avez eu l'heure, non?
Juste avant d'aller à l'école, c'est parfait.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baird. Pouette, pouette, la hurlette, tagada la queue du rat.
Je vous jure, ça vaut le coup.
Tu t'es levé de bonne humeur, Pat?
Oui, très bien, Édouard.
Je te trouve bien. Tu sais qu'il ne faut pas faire trop de bruit, parce qu'en fait, Ibrahim Malouf est venu directement ici de son concert au Zénith hier soir. Et il dort juste à côté dans le hall du Café Nova. Tu vas avoir beaucoup de monde ce matin.
Ah, génial, ouais. Mais d'ailleurs, je leur ai donné une petite couverture pour qu'ils n'aient pas froid, tu vois.
C'est bien ça, c'est tout toi, parce que tu as beaucoup dormi dans la rue.
Absolument.
Et il y a beaucoup de gens qui sont inscrits dans cet événement Nova de venir tout à l'heure au live d'Ibrahim Malouf. Tu vas assurer ou pas?
Ah, je vais assurer. Il y a des croissants, il y a du café, il y a de tout ce que l'on veut pour leur faire plaisir, Edouard.
Tu as la voix très caressante ce matin, comme un gros matou.
Oui, c'est vrai. Je suis un peu chat ce matin.
C'est la dernière de la saison avant les vacances de Noël. Tu repars pour Angers?
Oui, absolument. Je retrouve Angers avec plaisir parce que c'est la verdure. Ça fait du bien, mais je serais tellement heureux de revenir ici, de recommencer avec
vous. Je trouve ça très mignon ton début d'émission avec moi. J'ai adoré ce moment. Continuez à envoyer vos mails par milliers et à tweeter, mes petits tweetos. C'était frais. Bonjour Thierry. Pareil.
Salut Edouard, bonjour à tous.
Bien sûr. Salut. Bonjour.
Bah voilà, tout simplement. Plusieurs centaines de chauffeurs VTC manifestent à Paris en ce moment, depuis 6 heures ce matin. Ils réclament une meilleure rémunération. Ils se disent humiliés par les plateformes de réservation, Uber en particulier. Les chauffeurs, ils arrivent de toutes les villes de France en fait. Et ils se sont donné rendez-vous donc porte-maillot, mais ils comptent se rendre du côté de l'aéroport de Roissy. La crise migratoire, le dossier ukrainien avec la prolongation des sanctions envers la Russie et puis bien sûr la situation en Syrie seront au menu du dernier sommet européen de l'année. Les 28 pays membres de l'Union européenne ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. Et justement, la Syrie, parlons-en. L'horreur se poursuit à Alep. Après le report de l'évacuation des civils et des insurgés, de violents combats ont repris dans la partie orientale de la ville. En fait, la trêve annoncée hier a très vite volé en éclats, même pas certain d'ailleurs qu'elle soit entrée en application, précipitant donc du coup cette situation, précipitant encore davantage dans le martyr une cité qui fut autrefois un carrefour de civilisation et une puissance commerciale. On pense bien sûr à tous ces civils qui sont bloqués dans cette ville. Et face à la situation en Syrie et aux multiples conflits dans le monde, il faut davantage de médiation, d'arbitrage, de diplomatie préventive. Ce n'est pas moi qui le dis, bien évidemment. C'est une déclaration du nouveau secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qui prendra officiellement ses fonctions le 1er janvier après le départ de Ban Ki-moon. Antonio Guterres, c'est l'ancien premier ministre portugais. Le gouvernement colombien a signé les mesures de grâce d'au moins 110 guérilleros des FARC en application de l'accord de paix visant à mettre fin à plus de 50 ans de conflits armés. Les candidats socialistes à la primaire du PS ont jusqu'à ce soir pour se déclarer. Deux conditions pour cela. La première, d'abord réunir les parrainages nécessaires et puis la seconde, être à jour de ses cotisations au PS en tant que militant. Oui, parce qu'on verse aussi des cotisations en tant qu'élu. Là, on parle simplement en tant que militant, c'est celle-ci qui compte. Vincent Payon, qui devait près de 20 000 euros d'arriérés de cotisation, a régularisé sa situation. Arnaud Montebourg affirme, lui aussi, être à jour de ses cotisations, malgré des informations qui circulaient hier et qui disaient le contraire. Le PS a confirmé. Il peut donc se présenter. Puis toujours à propos de cette primaire, Sylvia Pinel a confirmé sa candidature hier. Elle sera la seule femme candidate et elle représentera le Parti radical de gauche. Il y a 8 candidats pour l'instant. L'Assemblée nationale a donné son feu vert hier soir à la fusion des 4 premiers arrondissements de Paris. Mesure phare du projet de loi sur la réforme du statut de la capitale, voulu par la maire Anne Hidalgo, mais dénoncé par la droite qui parle de calcul politicien pour transformer le centre de la capitale en forteresse du socialisme municipal. Je cite. Plus d'un milliard de comptes d'utilisateurs Yahoo piratés. Le groupe a annoncé dans un communiqué avoir été victime d'une cyberattaque, alors c'était en août 2013, en précisant que les données bancaires n'auraient pas été affectées. Le Parlement japonais vient de voter une loi sur les complexes de loisirs. C'est une loi destinée à légaliser les casinos, mesure pour doper le tourisme. Selon le gouvernement, l'opposition a tenté jusqu'au bout de faire barrage à ce texte qui, selon elle, fait le jeu surtout de la pègre. On termine avec du football. Bordeaux, Monaco, Metz, Guingamp, Nancy et le PSG ont rejoint Nantes et Sochaux en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Bordeaux a battu Nice 3-2, Monaco a pulvérisé Rennes 7-0, Metz s'impose face à Toulouse au tir au but, même chose pour Guingamp face à Lyon, Nancy est allé s'imposer 1-0 sur le terrain de Saint-Etienne, enfin le tenant du titre depuis 2014, le PSG a battu Lille 3-1. On connaît déjà les quarts de finale, ils opposeront Sochaux à Monaco, Bordeaux à Guingamp, Nantes à Nancy et le PSG à Metz, et ces rencontres auront lieu les 10 et 11 janvier.
Nova. Merci Thierry Paré.
Nova.
De rien. Après 10 ans de tournée à travers le monde et après un Bercy hier soir plein à craquer, Ibrahim Malouf prend un repos bien mérité là sur une banquette dans Radio Nova Eldor. Il en aura traversé des paysages, il en aura épuisé des trompettes, il en aura rempli des formulaires d'hôtels, il en aura réveillé des concierges de nuit dans des Formule 1 certains pour se plaindre d'une douche qui fuit, d'un lit qui grince, de voisins qui rentrent trop tôt. Il en aura passé des coups de fil à des familles de plus en plus lointaines et indifférentes. Il en aura reçu des ovations, des fleurs, des lettres, des demandes de rançon. Il en aura épuisé des semelles, des billets d'avion froissés dans les poches. Il en aura fait rêver des enfants devenus grands sur ces 10 années. Première année, premier concierge, j'avais 15 ans, j'en ai 25. 10 ans de trompette dans mes oreilles, 10 ans de rêve, plus grand, plus fort, plus haut. Ibrahim Malouf dort. Et nous on attend son réveil. Tout à l'heure, on va le réveiller. Hein ? On va le réveiller, Tintin. Allez.
7h-9h, plus près de toi.
7h-9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Je trouve tout ça d'une vulgarité épouvantable. Ça me délecte.
J'espère que ça va bien chez vous, parce qu'ici ça va pas mal, vu qu'autour de cette table à 7h12, nous avons la crème de la crème du journalisme et du non-journalisme, qui est une nouvelle spécialité qu'on lance ici. Par exemple, Christophe Méné, vous êtes fait un nom dans le non-journalisme.
Oui.
Qu'est-ce que vous avez retiré de la presse, de la lecture de la presse ou du net ce matin ?
Eh bah, ben, d'abord le gros carton de Monaco. Voilà, ils mettent que des cartons.
D'accord, alors c'est-à-dire, soyez des chiffres, Ligue, hein. Expliquez-nous. Vous voyez, là, on est
alors,
déjà nuls en journalisme.
Ils ont gagné 7-0 voilà, mais on peut être hier soir contre Rennes.
Voilà, au lieu de dire que Monaco a fait un carton, oui. Dites que Rennes a fait un bide, c'est plus d'époque. Au lieu de dire que Monaco a fait 7, dites que Rennes a fait 0. Et c'est, vous voyez, vous n'avez pas une approche qui fait, qui fait du buzz, c'est pas
oui,
bien.
C'est
Marie, vous qui êtes vraiment le journalisme et,
oui,
la, et le
je
talent.
Je suis le journaliste.
La beauté, le talent, l'énergie. Oui. Je dirais, vous êtes l'année 2017. Oh, alors, je vois en couverture du Parisien comment Poutine nous impose sa loi. Il nous impose sa loi. Moi, pour le moment, ça va. Non,
pour l'instant, je trouve qu'il nous impose surtout un petit sourire coquin en couverture.
Vous avez raison.
Déjà.
Oui, il est coquin.
Aussi, c'est de
Poutine
bonne
le page. Coquin.
Où est-ce que tu as entendu ce matin que Poutine était coquin? Je sais pas. Je ne sais pas si c'est Culture ou sur Énergie 12. Non, non, c'est sur Nova.
C'est le journaliste de Nova qui a dit qu'il était coquin. J'ai aussi vu que c'était l'occasion pour le Parisien de ressortir une phrase de Charles de Gaulle qui parle de l'ONU en disant « ce machin qu'est l'ONU » pour dire que l'ONU n'a pas été super efficace en ce qui concerne Alep. Et puis alors, il y a des Français qui s'expriment sur Vladimir Poutine. Ils aiment quand même bien qu'il soit un peu dur, Vladimir Poutine, les Français interviewés par le Parisien. Et puis surtout, j'ai découvert en lisant La Croix que le Poutine, lui, il s'en fout de faire la une des journaux à Paris. Il est au Japon. Il s'en fiche.
Vous croyez qu'il s'en fout de Paris? C'est très vexant. C'est-à-dire qu'il n'est même pas au courant qu'il fait la coupe du Parisien. Atmen, vous aimez avoir peur des hommes politiques? Ça vous rassure, des hommes politiques un peu
Moi, j'ai peur de Poutine. Hein.
Mais c'est bien, vous aimez avoir peur.
J'aime avoir peur.
Ça me rassure d'avoir peur.
Ma France à moi a peur, là, en ce moment.
Tito, vous suivez la politique le matin?
Oui, toujours, bien sûr. Avec
Tito
le
avec sa guitare, hein, Tito, qui est arrivé du lac d'Ourthe pour passer quelques jours avec nous. Trump enrôle une équipe de choc, je vois dans le Figaro. Alors, c'est bien équipe de choc parce que le Figaro ne prend pas parti. On ne sait pas si c'est bien le choc positif, choc négatif. Il y a des sacrées gueules. Vous les connaissez, Marie, les gens de l'équipe de Trump?
Bannon et compagnie.
Oui.
Alors, il y en a un que j'aime, enfin, que je l'aime pas vraiment, mais Monsieur Pruitt, à la tête de l'environnement, qui
je
est
ne
un
l'ai pas, celui-là. Ah oui.
Et il s'appelle Monsieur Pruitt, et toute
consonance... Il y a un mec de chez Exxon aussi qui arrive,
Mr.
que des hommes d'affaires.
Alors on va faire une battle de bonne humeur, là. Certains se lèvent toujours du pied gauche, certains voudraient aller se recoucher, certains détestent leur œil ouvert, leur oreille ouverte aussi. Et puis il y en a d'autres qui sont enchantés de tout, et ceux-là, ils m'énervent. Depuis quelques jours, nous appelions le matin Kader, qui est chauffeur de VTC, et Franco, qui travaille au restaurant Il Fico. À chaque fois que nous les appelions, ils étaient d'une bonne humeur insolente, je voudrais voir si ça tient encore. Franco, bonjour.
Bonjour Edouard, ça va?
Franco, vous êtes réveillé depuis quelle heure?
Oh, bon, à 9h, à 9h30, je vais travailler.
D'accord, vous êtes réveillé depuis 9h30 hier soir, ou hier matin, oh. Pas bien compris. Franco, vous travaillez au restaurant Il Fico, vous êtes de quelle humeur ce matin?
Oh, très bien.
Non.
Mon humeur, c'est non. Très bien, merci.
Vous avez vu que par rapport à votre pays, l'Italie, il fait beaucoup plus froid?
Oh, bon, à mon pays, oui, à Trieste, c'est beaucoup, beaucoup de froid. Et
non, mais ici, il fait froid, il fait beaucoup plus froid ici.
Oui, non.
Tout est gris, les gens sont de mauvaise humeur, non? Oh, il m'énerve.
Moi, je vais les sourire, alors c'est bon.
Bon, enfin, vous êtes pas très en forme, quoi, aujourd'hui, Tito. Vous voyez, je me trompe même de prénom, ça vous énerve ça?
Pardon?
Ça vous énerve, je me suis trompé de prénom, ça vous énerve?
Non, tranquille. Non. C'est Franco, c'est pas le Tico, hein? Mon prénom.
Bon, bah, bonne journée. J'ai même plus envie d'appeler le deuxième, tellement ça m'a épuisé cette bonne humeur du matin. Allô, Jack? On est avec Jack qui est parti ce matin dans la rue.
Oui.
Jack, vous avez peur de Poutine, vous?
Bah oui, en plus, c'est un judoka.
Oui.
Un judoka, il
enfin, y a peu de chances que vous rencontriez vraiment au coin d'une rue en tête à tête à 7h19 du matin.
Non, surtout que là, je suis sur une île. Je suis sur une île et comme on avait Ibrahim Malouf, moi, je voulais faire de la trompette. Donc, on m'a offert une trompette un jour. Alors, j'ai apporté ma trompette. Je voulais jouer sous un pont, mais en fait, il y a un gars qui dort dessous. Alors, je ne voulais pas trop le réveiller. Donc, je suis quai d'Anjou, là où habitait Chagall, et je vais faire un petit brin de trompette.
Alors, vous êtes quai d'Anjou à Paris, sur l'île Saint-Louis, je crois que c'était Chagall, et maintenant, c'est Roland Dumas qui habite là. C'est toute une époque. Oh. C'est pas. On voit que c'est pas Ibrahim Malouf à quelques détails. Jack, c'est superbe. Avec quelle partie de votre corps faites-vous ça?
Je suis super essoufflé, là. Et alors, il n'y a pas de hasard. Je balade, il n'y a pas grand monde.
Trompette du matin, chagrin.
Trompette du matin, chagrin.
C'est vous qui jouiez de la trompette, Jack, sous les fenêtres du Quai d'Anjou, à 25 000 euros le mètre carré?
Oui, c'est un trouble à l'ordre public, ça s'appelle.
Moi, je dis rien, mais à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'amateurs de trompette de 7h20 du matin sur l'île Saint-Louis.
Non, c'est pour ça que je vais m'échapper rapidement.
Ta trompette, tu vas t'asseoir dessus avant que j'appelle la maréchaussée.
Voilà, de Dieu. Mais alors, avant de m'échapper de ce quai, en fait, sur un banc, il y a à peu près une dizaine de bouquins qui sont étalés. Donc, je ne sais pas si quelqu'un qui les donne. Il y a Le siècle du cinéma, il y a Manuel El Negro, il y a L'injustice ménagère. Ça, c'est intéressant.
Oui.
Pourquoi les femmes en font-elles toujours autant? Il y a Le sac de Jean-Claude Kaufmann. Il y a Fiction en bilingue de Jorge Luis Borges. Il y a Clarissa Pinkola Este, Les femmes qui courent avec les loups, La novice. Il y a plein de bouquins, donc vous pouvez vous servir ici. Trois jours chez ma mère de François Vergans.
Ils sont là sur un banc.
Oui, ils sont sur un banc. Ils sont un peu mouillés là parce que c'est un peu. Mais l'intérieur ça va, mais les couvertures sont un peu.
Sur un banc ce matin, quai d'Anjou.
Ouais.
C'est livré
à l'entrée. Un extrait si vous voulez.
Ouais. Non, mais ça me touche. Je continue à marcher dans les rues de Paris.
Oui, j'avance.
Après avoir été changé de main en main, après être né de l'imagination d'un poète, d'un écrivain, après avoir été mis sous presse, relié, après avoir fait les belles heures d'une librairie, d'un étalage, après avoir été choyé, offert pour Noël ou pour un anniversaire, trois jours chez ma mère, de François Vergans, ou l'injustice ménagère, dont on ne sait même plus qui échoue là, ce matin, quai d'Anjou, sous les remous des péniches, sous les colibés des touristes, dans l'indifférence des habitants qui vont retourner vivre leur vie milliardaire au Brésil lorsqu'ils n'ont pas ce pied-à-terre à Paris ou à Venise. Vas-y, livre, prends la pluie, mouille-toi, redeviens arbre.
7h-9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi?
Il y a vraiment des interventions pertinentes.
En effet, d'une pertinence totale, juste avant les fêtes, je ne sais pas si vous connaissez ce phénomène dans le monde de l'entreprise, il y a ce qu'on appelle le stagiaire de troisième, voire ça, le côté féminin, la stagiaire de troisième. Les couloirs sont envahis de jeunes filles et de jeunes garçons qui rêvent juste de tweeter, de regarder leur Facebook et à qui on oblige de prendre des notes sur l'entreprise. Christophe, vous êtes au fond avec trois stagiaires de troisième de Radio Nova.
Oui, voilà, trois stagiaires, donc on va leur demander leur prénom, c'est comment?
Romy.
Romy, t'as quel âge?
14 ans. Bulle, 15 ans.
15 ans.
Lucie.
Cette interview va beaucoup trop lentement. J'arrive dans le duplex, Christophe. Qu'est-ce que tu as observé depuis que tu es là, Romy?
Je passe de l'autre côté du duplex.
Bonne ambiance.
Bonne ambiance. Et Romy est là depuis une semaine. C'est tout ce que tu as retenu de Nova. Bulle, est-ce que tu as observé des choses étranges qui se passent dans une radio?
Oui, c'est tout le monde est super. Va très vite. Tout se passe très vite.
Ah, bah tu vois.
Tu as vu circuler des bouteilles d'alcool? Ce rire n'est
pas sonore. Bien briefé, bien briefé.
Est-ce que tu penses que les gens travaillent trop ici, Radio Nova?
Oui et non.
Oui et non, elle est très prudente, elle se prépare pour une carrière dans ce qu'elle veut. Redis-moi ton prénom.
Lucie.
Lucie, qu'est-ce que tu as observé, toi?
Bah, que vous étiez content de venir travailler ici, donc même si c'était beaucoup de boulot, vous aviez envie de le faire et c'était ça votre motivation, c'était pour ça que ça rendait bien.
une très belle observation. Je vais vous faire des choses beaucoup plus négatives après. Charlène qui n'est pas stagiaire, puisque maintenant vous frisez la soixantaine, vous devez avoir 27 ans, Charlène. 28. Ah, c'est génial, après des années de radio, tu parles encore en dehors du micro.
Oui, j'aime bien.
Tu es quand même un génie de la manipulation du son. Pourquoi tu ne parlerais pas sous la table Charlène, tu t'es intéressée aux traditions locales de Noël.
Oui, il y a des traditions françaises de Noël qu'on a oubliées et c'est dommage.
C'est dommage parce que alors on connaît le Père Noël hein, qui soi-disant nous serait peut-être amené par Coca-Cola.
Les rennes, le traîneau.
Voilà, il y aurait des Saint-Nicolas dans certaines régions puisque oui. J'étais à Nancy la semaine dernière, ils fêtent beaucoup plus Saint-Nicolas que le Père Noël.
En Suisse, Saint-Nicolas de Bourgogne.
En Suisse, en France, Christophe Méné.
Mon frère Méné de leur mot là. Oui. Ouh.
Je comprends rien.
Mais pas du tout dedans. Et là, c'est une tradition qui est méconnue, qui vient de Belfort.
Alors,
âme sensible, éloignez-vous de votre radio. C'est une tradition comme une autre. Il faut pas juger. Rien n'est sale.
Maintenant, quelque chose d'insolite et qui va sans doute heurter un certain nombre d'entre vous. Mais il s'agit d'une tradition de Noël, une tradition un peu cruelle, il faut bien le dire. Dans certains villages autour de Belfort, on mange un chat le 24 décembre au soir.
J'aime les chats, j'aime les chats.
Est-ce que ce sont des chats que vous élevez ou que vous capturez dans la rue, que vous consommez le soir de Noël ?
Ce ne sont pas des chats sauvages, ce sont des chats domestiques qui sont... On choisit d'ailleurs les plus gros. Uniquement les mâles, je précise bien uniquement les mâles, parce que la femelle ne paraît-il pas bonne à la consommation.
Mais pourquoi manger le chat ? Comme ça, quand nous mangeons le chat... Beaucoup bon goût.
Lorsqu'on a des invités et qu'on ne veut pas leur faire voir vraiment que c'est du chat, on leur reprend seulement à la fin du repas, mais alors on ne serre pas les côtes. C'est le seul moyen de reconnaître, de différencier le chat du lapin sur les côtes.
C'est quoi exactement un jus de chat ?
Bah, c'est un peu comme une orange pressée, mais au lieu de presser le jus de l'orange, tu fais la même chose en pressant...
Je veux pas entendre ça.
On dit des goûts et des couleurs. Alors, de toute façon, un conseil pour ceux d'entre vous qui habitent aux environs de Belfort, gardez vos chats au chaud.
Oh, c'est dommage.
Voilà, demain, nous verrons les régions où on mange le Père Noël. Toutes ces petites traditions. C'est bien, les voix sont bien. Bientôt...
Il y avait la voix de Alf, celui qui mange des chats.
Petit chat.
Qui parlait comme ça.
Vous le faites bien, Christophe, comme
oui.
Vous...
Oui. Oui.
Vous avez doublé des dessins animés ?
Non.
Ah oui,
très envie de le faire.
Pourquoi ? Tito, bonjour.
Bonjour.
Tito, tu as préparé des racatacatac frais pour aujourd'hui ou pas ?
Ah, des tili-tili pim pim.
Quelle est la différence entre nous ?
Ah, tili-tili-tili pim pim tili-tili-tra pam pam takatou 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 takatata hey pa boum ba bim rum.
Ah oui, c'est vrai que c'est très différent. Thierry Paré.
Radio Nova.
La colère des chauffeurs de VTC manifeste et donc bloque la porte-maillot à Paris depuis 6 heures ce matin. Ils entendent aussi se rapprocher des aéroports. Ils souhaitent principalement une meilleure rémunération. Uber, numéro 1 de ce marché des VTC, a ouvert des discussions avec certaines organisations syndicales, mais sans succès pour l'instant. La crise migratoire, le dossier ukrainien avec la prolongation des sanctions envers la Russie, puis bien sûr la situation en Syrie, seront au menu du dernier sommet européen de l'année. Les 28 pays membres de l'Union européenne ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. La Syrie, justement, on y vient. Hélas, une nouvelle trêve a été annoncée ce matin. Difficile pour le moment de savoir si elle sera observée. En tout cas, les précédentes n'ont pas été respectées. Des centaines de milliers de civils restent donc bloqués dans la ville dans l'attente d'être évacués. Les candidats socialistes à la primaire du PS ont jusqu'à ce soir pour se déclarer. Deux conditions pour cela. Le premier, réunir les parrainages nécessaires. La seconde, être à jour de ses cotisations en tant que militant. Vincent Payon, qui devait près de 20 000 euros d'arriéré de cotisation, a régularisé sa situation. Arnaud Montebourg affirme, lui, être à jour de ses cotisations, ce qu'a confirmé le PS, malgré des infos hier qui circulait et qui faisait état d'un arriéré de 80 000 euros. Il semble en fait qu'Arnaud Montebourg ait surtout des arriérés de cotisation auprès du groupe PS à l'Assemblée nationale, donc en tant qu'élu, mais cela ne compte pas pour la primaire. Et puis toujours à propos de cette primaire, Sylvia Pinel a confirmé sa candidature. Elle représentera le Parti radical de gauche et sera la seule femme de cette primaire. Chômeurs et cobayes. Le Parlement finlandais vient de donner son feu vert pour tester auprès de 2000 personnes sans emploi le versement d'un revenu de base, une allocation de 560 euros par mois. L'idée à terme, c'est de verser cette somme à tous les citoyens finlandais sans condition. Le projet faisait partie des promesses électorales du Premier ministre centriste du pays. C'est un projet qui a été largement adopté, 143 voix pour, contre 21, 35 abstentions. attention quand même. Et à ceux qui trouveront que 560 euros par mois de revenus de base, c'est beaucoup, il faut préciser qu'une telle allocation mensuelle ne permet de vivre que très chichement en Finlande, où le revenu net disponible moyen dépasse les 2200 euros par personne et par mois. Plus d'un milliard de comptes d'utilisateurs Yahoo piratés, le groupe a annoncé dans un communiqué avoir été victime d'une cyberattaque, c'était en août 2013, en précisant que les données bancaires n'auraient pas été affectées. Bordeaux, Monaco, Metz, Guingamp, Nancy et le PSG ont rejoint Nantes et Sochaux en quart de finale de la Coupe de la Ligue. Et puis, alors les quarts de finale, on connaît déjà le programme en fait. Elles s'opposeront Sochaux à Monaco, Bordeaux à Guingamp, Nantes à Nancy, le PSG à Metz et les rencontres auront lieu les 10 et 11 janvier. Un mot enfin des championnats d'Europe féminins de handball. Ça se passe plutôt bien pour les Françaises hein, qui réalisent un quasi sans faute. Elles ont battu hier la Serbie 28-21 et du coup elles se qualifient pour les demi-finales de ce championnat d'Europe féminin de handball. Nova.
Vous avez été très proche de handballeuse à un moment de votre vie, Thierry Paré.
Oui, c'est vrai. Genre, je comptais pas l'étaler sur la place.
Plus à la radio. Alors, Thierry, je vais partir là, sortir du studio parce que Ibrahim Malouf est venu directement de son concert à Bercy hier soir ici parce qu'il a nous fait la gentillesse de faire un concert tout à l'heure à live en direct. Comment ça se passe? Je suis avec l'équipe d'Ibrahim. Est-ce qu'il dort encore là?
Il dort encore. Oui.
D'accord. Est-ce qu'on le réveille avant la fin de l'émission quand même?
Ça pourrait être sympa, si jamais il voulait dire un mot, ce serait sympa. Oui.
Et dis donc, vous êtes rentré à quelle heure de Bercy?
Alors, il faut savoir que Bercy a déjà duré très longtemps, parce que c'était un concert anniversaire. On a vraiment pris le temps d'en profiter.
Et on chuchote. Oui.
Et puis après, on chuchote parce qu'il est juste...
On respecte l'artiste qui... Oui.
Respecte le sommeil de l'artiste.
Et après tu disais...
Et après, c'était... Il y a eu une after, où on a un petit peu rencontré...
C'est quoi, ce sont des carafes d'eau, des sandwichs au pain?
Absolument.
Alors on va envoyer un peu de pub, un peu de musique, on va voir si j'ose pas le réveiller. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des kernels? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a des amandes, il y a des noix de cajou, toute une ambiance. À tout de suite.
7h, 9h, plus près de toi. Nova. Plus près de toi.
Plus près de toi. 7h, 9h, une actualité extrêmement actuelle.
Ibrahim Malouf vient de se réveiller, je l'ai vu passer à travers la porte vitrée, c'était beau, un musicien qui se réveille, sa trompette aussi commençait à cligner des yeux. Atmen, vous êtes un père de famille aujourd'hui qui a envie de
calamar, qui a envie de crier son ras-le-bol.
Vous avez un beau coup de gueule à 7h41.
Oui, un coup de gueule, on en a marre de la Reine des Neiges.
Ah oui,
voilà, on en a jusque là.
Oui, vous avez une fille de quel âge?
J'ai une fille de 4 ans qui est complètement envoûtée.
Oui. Voilà, dès 4 ans, faire. C'est dès
4 ans. 4 ans, voilà.
Ils sont bons chez Disney.
Chez Disney, ils sont très forts. C'est rentré dans le cerveau, ça ressort plus. Elle a les robes, les baguettes magiques, elle crie toute la journée, elle fait les chorégraphies comme un zombie.
Vous pensez que la Reine des Neiges, ça amène à Trump à l'âge adulte?
Je pense ça amène
Trump, par la Reine des Neiges.
Au nazisme, à tout. À tout.
Alors, vous y allez qu'est-ce que vous dites, Armel?
C'est quoi la Reine des Neiges?
La Reine des Neiges, vous ne connaissez pas le dessin animé La Reine des Neiges?
Tu étais en prison pendant 3 ans.
C'est le premier dessin animé où la princesse n'est pas libérée par un prince charmant, mais par sa sœur.
Oui.
Et là, ça a rendu fou tout le monde. Il y a même des mères de famille qui font des vidéos où elles chantent la chanson de Libérer des livres.
Donc, dès qu'il n'y a pas les garçons, ça va beaucoup mieux. Alors, comment faire Atmen face à
ces trois solutions un petit peu
que proposent les enfants à la maison de
alors, pour un peu la maman, faire des ice buckets en permanence. Voilà, on met les enfants, on les couvre de glace et d'eau froide, comme ça va aller. On leur dit, voilà, ça c'est le pays de la Reine des Neiges, c'est le climat de la Reine des Neiges. Voilà. Ouais. Faire bouffer des omelettes norvégiennes matin, midi et soir, mais à fond. Et puis les réveiller avec des yodels. Les yodels, c'est toute la journée. Je ne sais pas trop le faire parce que je sors de Rungis, mais vraiment, c'est des. Et comme ça, vous serez définitivement libéré, délivré. Quelle est la chanson la plus pourrie de la Reine des Neiges et qu'on a dans la tête?
Moi, je l'aime bien quand même.
Vous avez
ne mentirai plus jamais, libéré, pardon.
Non, parce que mon petit Mathieu, vous voyez, Atmen avait délivré un vrai billet avec un début, un milieu, une fin. On frôlait le journalisme, on était dans quelque chose. Et là, mon petit Delormeau, là, vous avez été lamentable. Léa, ça va? Mets le casque pour entendre ta voix dedans. Toi, tu aimes bien. Tu vas t'entendre là-dedans. Est-ce que tu aimes bien la Reine des Neiges, toi?
Aïe!
Ah non, c'est le micro, c'est le casque qui est tombé sur les oreilles de Léa. Léa, tu aimes bien la Reine des Neiges, toi?
Oui.
Oui. Et tu as la robe et tout?
Non.
Ils sont partout!
Voilà. Prépare-toi, ça va être à toi.
Mesdames, messieurs, prenez garde à la poésie.
Un enfant, un poème.
Va.
Léa, est-ce que tu aimes bien le matin? Tu aimes bien te réveiller?
Oui.
La première chose que tu fais quand tu te réveilles, c'est quoi?
J'éteins mon réveil
Et après, je ouvre mon petit calendrier.
Le calendrier d'avant Noël, là, de l'avant, il y a un cadeau dedans ?
Oui.
Là, il y avait quoi ce matin ?
Bah, il y avait 3 œufs au chocolat.
3 cadeaux ? Est-ce qu'on dit un œuf, des œufs ?
Des œufs.
Ah oui. Et tu les as mangés au petit déjeuner ou pas ?
Bah oui, j'ai mangé un œuf, après l'autre j'ai donné à ma maman et l'autre j'ai donné à mon grand frère.
C'est vraiment gentil. Tu préfères les œufs de poule ou les œufs en chocolat ?
En chocolat.
Et tu penses que les poules, elles peuvent pondre des œufs en chocolat ?
Bah non.
On ne sait pas en même temps. On n'a pas jusqu'ici, non, mais ça pourrait arriver. Et les œufs en chocolat, à ton avis, sont pondus par quel genre d'animal ?
Je sais pas.
Peut-être des poules en chocolat ? Non ?
Oui,
pourquoi pas, oui, très bien. Et là, ta poésie ce matin, c'est quoi ? C'est une poésie que tu as appris à l'école ?
Oui.
Que tu vas réciter ou tu as déjà récité ?
Que j'avais récité à l'école.
Devant tout le monde ?
Non, juste on faisait un par un et on récitait notre poésie.
Et les autres enfants écoutaient ?
Oui.
Et t'as eu peur ? T'as eu le trac ou pas ?
Un peu.
Bon, et t'as réussi à le dire ou tout à coup t'as tout oublié ?
Ben, j'ai réussi à le dire.
Ouais, parce que contrairement à Atmen, qui lui, quand il joue au théâtre, Atmen, et quand il voit qu'il y a du monde dans la salle, ce qui arrive rarement, eh ben, il ne trouve plus son texte. Mon petit Pinot, là, tout cas. Il fait...
Alors, c'est vrai, j'ai souvent des trous.
Léa, comment il s'appelle ton poème ?
Renette la grenouille.
Renette la grenouille, que j'ai connue, moi, à l'époque. On écoute Renette la grenouille par Léa.
Renette la grenouille. Elle a bon appétit, Renette la grenouille. Le lundi, elle croque un rôti. Le mardi, 2 nouilles. Le mercredi, 3 raviolis. Le jeudi, 4 citrouilles. Le vendredi, 5 radis. Et le dimanche, le samedi, 6 brins de fenouil. Et le dimanche, 7 énormes gâteaux.
Magnifique.
Bravo, super. Super, le poème. Ibrahim Malou qui vient de se réveiller. C'est formidable, ta Renette la grenouille. Elle a très bon appétit. Tu dis bonjour à ce monsieur ?
Bonjour.
Tu sais jouer d'un...
Bonjour.
Ibrahim, vous venez de vous réveiller ? C'est pas... Tu vois, il est en retard pour l'école, lui, Ibrahim. Ibrahim, vous avez dormi de quelle heure à quelle heure ? Tu vois, alors, Léa, tu vas faire un café à Ibrahim parce qu'il a fait un concert hier soir, il y a beaucoup de monde et on se retrouve tout de suite après. Salut Maestro, à tout de suite. Voilà, pendant que cette rubrique s'appelle Pendant qu'Ibrahim Malouf prend un café et de l'eau.
Ça prend combien de temps ? Parce que j'ai un rendez-vous là.
Vous avez quoi ?
J'ai un rendez-vous tout de suite. Quel genre de rendez-vous ? Rendez-vous professionnel.
Jack est dans la rue avec des gens qui...
Professionnel.
Professionnel, vous voulez pas en dire ?
Non.
C'est un rendez-vous sur lequel il y aura peut-être... Il y a de l'argent en jeu ?
Non, pas vraiment.
C'est un rendez-vous professionnel pour accéder peut-être à un poste plus haut dans la hiérarchie d'entreprise dans laquelle vous êtes ?
Oui, c'est ça.
Eh bien, monsieur, on vous souhaite le meilleur. Est-ce que vous avez fait, bonjour, des efforts bonjour. De présentation pour optimiser ce rendez-vous ?
Bien sûr.
Comment vous êtes-vous présenté ? Il faut être un peu modeste, élégant et modeste, non ?
Tout à fait ça.
Décrivez, cher monsieur, ce que vous avez choisi, vous, votre femme ou votre compagnon, je ne sais pas, pour aller à ce rendez-vous.
Manteau noir, costume simple, sobre.
Ouais, sobre.
Couleur sombre.
On est dans un camaïeu de gris ? Tous les gris sont convoqués ?
Non, plutôt noir.
Ah, noir. Alors noir, c'est peut-être inquiétant, peut-être pour votre employeur, non ?
Ouais, mais j'ai une chemise un peu mauve.
Je le sentais. Je le sentais, la chemise mauve ravive le teint. Et vous êtes un peu maquillé, monsieur, ou pas ?
Ah, pas du tout, non.
Pas du tout, le
teint... Pas vrai, monsieur, c'est pas vrai.
Jacques, il dit, monsieur, c'est pas vrai. Alors, on est entre nous, les mecs, on peut se parler entre mecs, on est maquillé, puis voilà. Il y a un tout petit peu de rimmel, du rimmel pour homme, un fard à paupières très viril.
Même pas. Même
un petit rosé à joues, vraiment Jean Lino Ventura, quoi, Jean Gabin, jeune fille.
Ah, c'est pas encore Jean Gabin. Dans quelques années, peut-être.
Alors, ça va se passer.
Un peu de ventre.
Répétez avec Jacques l'entretien d'embauche. Jacques, faites l'employeur.
Oui, alors, bonjour, monsieur. Vous avez apporté le dossier ?
Bonjour. Non, j'ai pas apporté le dossier parce que j'ai pas à vous apporter de dossier aujourd'hui.
C'est bien.
Vous parlez pas sur ce trou, monsieur.
Si, vous laissez pas faire. Il a raison, j'y crois.
Écoutez, Jean-François, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous me parlez sur ce ton-là ?
Ah, c'est mon ton habituel.
C'est très bon de donner un faux prénom pour humilier les employés. C'était une bonne règle de management.
Par contre, je suis vraiment désolé, je dois absolument y aller.
Allez, messieurs, vous y allez en métro.
Vous parlez pas comme ça, monsieur.
En voiture, bonne chance. Merde pour votre rendez-vous professionnel, hein. Ça va bien se passer.
Ça aurait été avec plaisir, très honnêtement. Ça aurait été avec plaisir, mais là, je suis pressé.
Je vous envoie de très bonnes ondes et n'oubliez pas le proverbe. Umbaunde baumbakanda. Ça veut dire, si tu cherches un emploi, il va te tomber dans le bec comme un oisillon.
C'est un proverbe de quel...
C'est un proverbe de des régions, c'est au sud. Ibrahim Malouf, après 10 ans à cheminer les routes, n'avait pas vu son appartement, n'avait pas vu sa famille. Il est de retour, il vient de terminer hier devant 16 000 personnes, c'est-à-dire 2 fois 8 000 personnes ou 4 fois 4 000 pour que les gens se les figurent. Tu es encore dedans là, non ?
On a, pour être tout à fait honnête, on n'a pas vraiment fait de break entre ça et là.
Donc là, c'est la suite du concert, là.
On a poursuivi un peu le plaisir du concert avec François, mon guitariste et collègue depuis pas mal d'années. On joue ensemble depuis pas mal d'années. On allait jouer dans les rues de Paris et puis on a tracé ici.
Vous avez joué dans les rues de Paris ?
Ouais. On allait sur les quais. C'était trop cool. J'ai sorti un peu d'arak.
Oui.
Et puis deux, trois petits bonbons. Et puis on s'est fait une petite session pour le plaisir.
Il y a pour vous, pour personne, pour des gens s'arrêter ?
Pour nous, pour marquer le coup aussi, pour fêter un peu ça. Et puis pour garder des traces d'un petit moment de privilégié juste tous les deux. Et voilà.
Moi, je me rends pas compte parce que quand on joue au théâtre, la comédie, on peut pas se le jouer à soi-même. Moi, si je vais me balader avec Atmen, avec de l'arak, on va pas se jouer une pièce de théâtre. Est-ce qu'on joue l'un pour l'autre ? Est-ce qu'on joue même pour soi-même d'un instrument ?
On joue pour créer aussi. On joue pour inventer. Au théâtre, par exemple, vous pourriez vous mettre tous les deux dans un coin où il y a personne et improviser des scènes ensemble juste pour le kiff. Comme on improviserait avec des potes des moments complètement absurdes.
Est-ce qu'on se joue d'un instrument pour soi-même ? Est-ce qu'on on s'écoute soi-même quand on joue d'un instrument ? Est-ce que c'est vrai ? Parce qu'un pianiste, par exemple.
Oui, moi je pense que oui. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur. Freud détestait les artistes parce qu'il trouvait qu'ils étaient centrés sur eux. Je pense qu'il a raison de les détester. Il a raison de dire qu'ils sont centrés sur eux. Après. Je pense que quand l'artiste il est centré sur lui, c'est pour essayer d'exprimer des choses que celui qui n'est pas artiste n'est pas capable d'exprimer et qui sont des reflets de la réalité de ce qu'est l'être humain. Et donc il y a des moments, tu es obligé de te regarder dans une classe pour dire alors attends, ma gueule elle est bien ou elle est pas bien ? Donc, elle est pas bien. Voilà.
Tu te regardes techniquement. Tu sais, il y avait un texte très beau sur Nourayev où François Sagan décrivait Nourayev, il s'entraînait devant une glace et elle disait il se regarde techniquement, il arrive à regarder quelqu'un d'autre qui.
Ben oui.
Et toi, quand tu t'écoutes, tu t'écoutes techniquement, tu te dis là c'est bon, là c'est pas bon.
Je pense que oui, franchement. Je pense que oui. Après, peut-être que c'est pas. Tout le monde le fait pas. Enfin, tous les artistes, tous les musiciens, les chanteurs, etc., ne le font pas. Mais je pense que c'est un exercice qui est. C'est pas un truc d'ego, attention. Je pense que c'est quelque chose qui a plutôt un rapport avec la capacité d'avoir du recul sur soi, la capacité de se dire voilà, franchement, à qui je suis, à quoi je ressemble. Je pense qu'il y a plein de gens qui se posent jamais cette question. Et qui n'en ont rien à faire de à quoi ils ressemblent, comment ils sont, qu'est-ce qu'ils ressentent, c'est quoi leur rapport avec l'autre, comment l'autre les voit, les perçoit, qui ne se mettent pas à la place de l'autre.
Donc, tu penses que le plus court chemin vers les autres passe par soi-même ou le contraire, le plus court chemin vers soi-même passe par les autres ?
Putain, j'ai pas dormi, Edouard.
Ma question m'échappe un petit peu, c'est une facilité de langage. On va envoyer quelque chose. Qu'est-ce qu'on a de bien ? Peut-être de la pub ferait plaisir à Ibrahim ce matin.
Ça vous ferait plaisir, un peu de pub ?
Armel était au concert hier soir.
Oui, je vous en parlerai tout à l'heure si vous voulez. J'ai envie d'écouter de la pub.
Tu me fais rêver.
Ça va ? Plus près de toi.
7h. 9h.
Édouard Baer.
Je passe une matinée. Mon Dieu.
Il va être 8h, ce qui est assez essentiel, parce que beaucoup de gens règlent leur réveil à 8h. Donc on a une minute pour dire des trucs avant que les gens nous écoutent. Quels sont les meilleurs « ça vous fait quoi d'eux » que tu as entendu comme question ? Ça vous fait quoi de jouer devant 16 000 personnes ?
Ouais, franchement, là, on me l'a beaucoup posé.
Ça, c'est
depuis
bien.
Hier. Ouais. Là, il y a plusieurs réponses. Tu as la réponse assez politiquement correct que de dire c'est assez incroyable, c'est un moment privilégié. Puis tu as la réponse qui n'est pas très très correcte qui est de dire en fait ils n'étaient pas 16 000, c'était 17 500. Mais bon.
Ah ouais, mais là on se dit Ibrahim, la pète, quoi. Il est passé de l'autre côté du miroir.
Ça fait ça en fait de jouer devant 16 000, c'est que d'un seul coup tu passes de l'autre côté.
En loge derrière, il y a eu des phrases. Tu m'as parlé des gens qui aimaient bien te parler du Liban aussi.
Oui, ça c'est pendant les concerts. Ouais. Mais c'est assez marrant, des gens qui. qui viennent te voir après les concerts sont quand même là, en 99% d'entre eux sont incroyables, mais on parlait des types d'exceptions. Les gens qui viennent te dire bah voilà, vraiment, vraiment bravo pour ce concert. Vraiment, d'ailleurs, la semaine dernière, je suis allé manger un taboulé dans un restaurant extraordinaire, vraiment un taboulé magnifique. Et je voulais vous dire vraiment, vraiment bravo pour ce concert.
Bravo pour votre culture, le Liban, voilà. La trompette, les mezzés.
C'est ça. c'est des exceptions. J'arrive pas à parler parce que j'ai pas dormi.
Non, mais les gens sont habitués ici parce qu'on fourche énormément. Je me suis trompé 200 fois de consonne.
On n'a des patates chaudes dans la bouche toute la matinée.
Et puis il y a Thierry Paré.
Radio Nova.
L'Assemblée nationale s'est penchée hier soir sur le projet de loi consacré à la réforme du statut de la capitale de Paris, donc, et a adopté deux mesures. Les députés ont d'abord donné leur feu vert à la fusion des quatre premiers arrondissements de Paris, et ils ont en outre autorisé, alors à titre expérimental, pour 3 ans, la création de clubs de jeux à Paris. La droite parle d'un projet funeste de calcul politicien pour transformer le centre de la capitale en forteresse du socialisme municipal. La colère des chauffeurs de VTC, ils manifestent et donc bloquent depuis 6 heures ce matin la porte Maillot et les abords des aéroports parisiens. Ils entendent aussi se rapprocher donc des aéroports, je viens de le dire. Ils souhaitent principalement une meilleure rémunération. Uber, numéro 1 de ce marché des VTC, a ouvert des discussions avec certaines organisations syndicales, mais sans succès pour l'instant. La crise migratoire, le dossier ukrainien avec la prolongation des sanctions envers la Russie, et puis bien évidemment, et hélas, la situation en Syrie, seront au menu du dernier sommet européen de l'année. Les 28 pays membres de l'Union européenne ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. La Syrie, justement, on y vient. On aurait aimé que ce soit autrement. Une nouvelle trêve a été annoncée ce matin. Difficile pour le moment de savoir si elle sera observée. En tout cas, les précédentes, et celles d'hier notamment, n'ont pas été du tout respectées. Des centaines de milliers de civils restent donc bloqués dans cette ville d'Alep dans l'attente d'être évacués. Les candidats socialistes à la primaire du PS, on va dire de la gauche, ont jusqu'à ce soir pour se déclarer. Deux conditions pour cela. La première, réunir les parrainages nécessaires. La seconde, être à jour de ses cotisations en tant que militant. Pour le moment, il y a 8 candidats, dont Sylvia Pinel, qui a confirmé sa candidature hier. Elle représentera le Parti radical de gauche et sera la seule femme de cette primaire. L'audience a duré plus de 10 heures. Bagui Traoré, un des frères d'Adama Traoré, ce jeune homme de 24 ans, mort en juillet dernier lors de son interpellation par les gendarmes, a été condamné à 8 mois de prison ferme pour violence envers des policiers en marge de cette affaire. Et puis un autre frère d'Adama Traoré a lui été condamné à 3 mois de prison ferme pour menace à l'encontre de 2 policiers. Rodrigo Duterte est réputé pour ses déclarations fracassantes. Mais la nouvelle sortie du président philippin dépasse de loin toutes ses précédentes. Il a affirmé avoir lui-même tué des suspects entre guillemets, lorsqu'il était maire de Davao, la grande ville du sud de l'archipel. Alors il s'agissait, je vais le citer, c'est quand même assez... il s'agissait de montrer l'exemple aux policiers et de poursuivre. J'allais donc dans Davao avec une moto, je patrouillais dans les rues à la recherche de problèmes, je cherchais vraiment l'affrontement pour pouvoir tuer. Fin de citation, on parle du président philippin, donc, qui est régulièrement accusé d'avoir créé des escadrons de la mort à Davao justement. En tout cas, la guerre contre la drogue que le président a lancée depuis son arrivée au pouvoir il y a maintenant 5 mois, aurait déjà fait plus de 5000 morts. Plus d'un milliard de comptes d'utilisateurs Yahoo piratés. Le groupe a annoncé dans un communiqué avoir été victime d'une cyberattaque en août 2013, en précisant que les données bancaires n'auraient pas été affectées. Bordeaux, Monaco, Metz, Guingamp, Nancy et le PSG ont rejoint Nantes et Sochaux en quart de finale de la Coupe de la Ligue. C'est du foot, donc on connaît le programme des quarts de finale. Ils opposeront Sochaux à Monaco, Bordeaux à Guingamp, Nantes à Nancy, le PSG à Metz, et les rencontres auront lieu les 10 et 11 janvier. Et puis un mot aussi des championnats d'Europe féminins de handball, puisque les Françaises réalisent un quasi sans faute. Elles ont battu hier la Serbie 28-21, ce qui leur permet d'accéder tout simplement aux demi-finales de la compétition. Nova.
Merci Thierry Paré. Nova. Ibrahim Malou, voici Tito. Tito qui est notre ami joueur de flamenco. J'essaie de le faire auditionner pour que tu l'engages éventuellement pour un bœuf dans une demi-heure.
Très bien, ça marche, j'ai compris. J'écoute, hein ?
Oui.
D'accord.
Moyen.
Ouais.
Tito, tu es venu aussi avec un ami chanteur de flamenco qui s'appelle comment?
Cristo Cortez.
Il est là à côté.
Il est là.
Il serait bien qu'il soit dans le bœuf aussi tout à l'heure.
Ah, magnifique.
Merci, on va dans la rue.
Oh Christ, prends pitié de nous.
Il y a une messe ce matin?
Seigneur, prends pitié de nous.
Jack?
Prions. Oui.
Vous êtes à la messe, là?
dans l'île. Nous sentons avec tristesse tout le mal qui fausse notre vie.
Et qu'est-ce qui se passe?
Je ne sais pas. Il faut que je parte d'ici.
Et c'est une messe à 8h05 du matin. Vous êtes dans quelle église, Bretou?
Je suis à Notre-Dame.
Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire?
Règne avec toi le Saint-Esprit.
Mais pourquoi?
Maintenant et dans les siècles des siècles.
Amen.
Des choses bizarres.
Il est grand le mystère de la foi, Jacques, souvent.
Des choses étranges.
Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette messe? Qu'est-ce que c'est que ce mal qu'il y aurait en nous, Jacques?
Il y a comme une grandeur ici qui m'assaille.
N'ayez pas peur de votre grandeur, n'ayez pas peur du soleil qui est en vous.
Attendez, je vais demander au monsieur. Monsieur.
Attendez, vous êtes qui?
La sortie.
Non, attendez, vous êtes qui?
Je sors. Je sors.
Oui, c'est beau de sortir, de savoir sortir. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, vous savez, Jacques. Et l'amour de Christ a beau être grand, il y a des limites.
Je dois partir. On me chasse.
Bon, mais sortez, justement.
8h du matin. Bon, au revoir.
Très bien. Vous êtes un enfant vous-même de l'église, Ibrahim, puisque votre père jouait dans les églises.
Ouais, mais même moi, quand j'étais petit, on jouait beaucoup, beaucoup, mon père et moi, des trompettes et orgues. Les orgues se trouvent dans les églises et on faisait ça très souvent.
À Saint-Julien-le-Pauvre, il paraît.
Entre autres, oui. Ça nous est arrivé.
Et là, c'était le son Notre-Dame. C'est très étonnant, cette messe à 8h06. Qu'est-ce que c'est que ça? Vep, c'est les fins d'après-midi. Il y a pas, ça peut être les matines, mais elles ne sont pas dites tous les matins Notre-Dame.
C'était un piège, c'était pour savoir si...
Ita miseres ibant obscuris sub sola nocte. Or donc, en ce premier jeudi précédant Noël, l'enfant Atmen se baladait quinquant sur les routes de Samarie. Lorsqu'il... A tout de suite.
7h-9h, Edouard Baird.
Plus près de toi.
Plus près de toi.
Ils ont la niaque, ces jeunes.
Oui, tout à fait.
S'en va le groupe américain The Ravens, à l'instant avec le Calypso Song, ce qui ne nous rajeunit pas tout à fait, puisque c'était dans les années 50, il est 8h11.
Il est 8h11, mais à mon avis, Eddie Mitchell est levé depuis très très longtemps.
Le réveil d'un monument.
Vous pouvez pas laisser pioncer les gens le matin, non?
Réveillons un monument national.
Ils sont nombreux à travers le pays et bien au-delà, les Eddie Mitchellistes. Il y a ceux de la première génération, comme Alain Paré, le père de Thierry Paré, et puis il y a les nouveaux, comme la jeune Lila Kellif, la fille d'Atmen Kellif. À travers cet éventail si large de fans, y a-t-il un homme derrière la musique? Y a-t-il un homme derrière la poésie? Ou n'est-ce qu'un mythe, un écran de fumée? Nous allons le savoir tout de suite. Bonjour Eddie.
Bonjour, bonjour. Comment va?
Eh ben, moi, ça va, parce qu'on est levé depuis déjà 6 heures. On a fait notre gym avec Atmen. On est allé faire de la boxe, du kung-fu et tout ça. Et vous, Eddie, à 8h12, c'est une heure, il se passe quoi chez les Mitchell?
Ben, mon Dieu, j'ai la presse. Je suis en train de lire, de lire les journaux.
Presse écrite, Eddie? Presse internet? Presse lue par un crieur de rue?
Non, c'est la presse écrite. Je suis en train de lire comment Poutine nous impose sa loi. Ça réveille bien le matin.
Ça réveille bien. Alors, on n'imagine pas tellement comment vous vivez. Est-ce que vous êtes plutôt avec une presse aussi américaine? Vous êtes dans un motel quelque part dans le Montana, ou vous êtes avec un majordome en livret qui vous apporte sur un plateau d'argent avec un scotch votre presse?
Non. Le matin, je ne suis pas dans le Montana. Je suis dans Paris. Et je viens de prendre mon petit-déj, voilà, tranquille.
On est sur quelle tenue, Eddie? On est sur une sorte de robe de chambre, un peignoir ou déjà des fringues de la journée?
Non, on est sur une tenue de sport, on va dire, voilà.
On est sur une thématique sport, quoi, c'est un jogging?
C'est un petit jogging, oui, ça va être très saillant.
Avec des couleurs flashy ou on est dans le sobre d'un homme en pleine maturité?
Non, ça va.
Vous me dites beaucoup non.
Non, parce que, mon cher, vous me réveillez déjà.
Oui, c'est vrai.
Vous voulez m'habiller? Ben non.
Non, Coco, mollo quand même, je veux pas vous relooker, Eddie. Est-ce que vous avez refait votre lit vous-même?
Pardon?
Est-ce que votre lit est défait, vous l'avez refait après votre...
Non, je ne refais pas mon lit, moi. Non, mon lit est défait, effectivement.
Donc le lit est encore défait, il est encore chaud de l'empreinte de votre corps.
Oui, c'est cela. C'est cela même.
J'érotise un peu l'émission. Est-ce que vous avez fait des rêves cette nuit, des beaux rêves, des cauchemars, ou le sommeil lourd d'un enfant?
Non, 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 je fais un sommeil très lourd. Très lourd.
Il y a eu un repas sérieux hier soir qui a...
Non. Une soupe au lit.
Une soupe, une Marie Brizard, et tout le monde va se coucher à 7 heures du soir. Là, on est dans quelle pièce, là, Eddy, ce matin là, on
se parle. Là, je suis dans la salle de Projo.
Il y a une salle de Projo.
Ah, oui. Ouais. Et j'étais en train de regarder, ça ne me réveille pas du tout, d'ailleurs. La revanche d'Ali Baba.
Alors, justement, je suis avec Atman Khelif, là, qui est un spécialiste d'Ali Baba.
Bonjour, Eddy.
Bonjour, Atman Khelif.
Donc, dans le premier, Ali Baba a gagné contre les 40 voleurs. Qu'est-ce qui se passe dans la revanche? C'est avec Fernandel, la revanche, non?
Non, pas du tout.
C'est avec Tony Curtis, non?
Non, pas du tout, c'est avec Conrad Wetz. Voilà.
Ah oui.
Conrad Wetz qui jouait, bien sûr, ce rôle de pirate merveilleux dans Pavillon Noir. Oui. Franck Borzage,
oui.
Distribué par RKO, etc. Avec Maureen O'Hara. Et là... Là, il se bat contre le sultan, qui est John Sutton. Alors, il y a un truc qui est formidable. Qui est formidable, parce que c'est un film fauché. Il n'y a pas un rond. Et donc, l'Irak est revisité par Hollywood, bien sûr, avec des minarets. Mais comme ils doivent attaquer ce fameux palais, et qu'ils n'ont pas de moyens, ils ont été prendre des stock shots dans Jeanne d'Arc de Berman. Avec Ingrid Bergman, pardon. Et donc... Ça donne des trucs formidables. On passe du minaret au château fort.
Je ne me rappelle pas qu'il y avait une franchise Ali Baba comme le gendarme. Il y a la suite, Ali Baba et les extraterrestres, Ali Baba et les gendarmettes. Non, ça s'est arrêté à la revanche.
Non. Il y a eu les mille et une nuits d'Ali Baba. Il y a eu Ali Baba et les 40 voleurs, bien sûr. Mais je veux dire, c'était pas, moi, je ne suis pas Fernandel. Hein, moi, je suis John Tal. Ouais.
Mais Eddy, à part regarder un film et prendre son petit déjeuner, je pense que vous êtes aussi un homme d'une hygiène très, très, très soignée. Est-ce que vous êtes passé par l'étape salle de bain, salle d'eau?
Non, pas encore.
Ah, ça s'entend un tout petit peu. J'ai dit voilà. Et donc là, ça va être vers 8h30. Donc on va arriver dans une salle de bain qui est quoi? Il y a du marbre, on est sur du bois?
Non, mais on est dans le bois.
On est dans un bois sombre, un bois assez viril, un bois pour homme.
Un bois d'homme, quoi.
Ouais. L'homme des bois, bien sûr. C'est une salle de bain qui vous est entièrement dévolue, Eddy, ou est-ce que d'autres membres de votre famille y ont accès?
Non, ma femme y a accès, oui.
Donc on partage bien les brosses à dents, il y a deux côtés de la salle de bain?
Oui.
Ah, c'est mon premier oui de la journée, Eddy. Alors ensuite, la douche va couler chez les Mitchell?
Oui, parce que moi je prends pas de bain, moi. Donc je suis douche. Moi.
Douche froide, tiède, chaude?
Tiède,
on ne prend pas parti. La douche entre deux, la douche centriste du matin. On serait sur un corps, un shampoing corps-tête ou juste...
Que corps.
Alors on n'est pas sur le cheveu tous les jours, mais on est dit on ne se lave pas les cheveux tous les jours.
Oh bah non, ça coûte trop cher.
Alors ensuite, savon, séchage, parfumage. On le parfume, le Eddy Mitchell, ou pas?
On ne parfume pas la bête le matin.
Non?
Non. Non, parce que ça me fait éternuer.
Le parfum?
Oui. Parce que j'ai un appendice nasal assez développé, ce qui fait qu'il est attaqué par les effluves.
Oui, vous avez un des très beaux nez du show business, Eddy Mitchell.
Oui, il y a aussi Pascal... flûte, quart de vrille, Pierre Lescure, bien sûr.
Oui.
Quand même assez imposant.
Ce n'est des rois de France, vous êtes peut-être lié au Bourbon, on ne sait pas.
Je ne sais pas.
Vous ne prétendez pas au trône de France et vous ne présentez pas à la présidentielle, là?
Non, même pas aux primaires, c'est vous dire.
Atman Khelif me fait des signes comme quoi vous seriez homme à boire le matin, je ne crois pas du tout.
Non, mais t'as dit le Bourbon, alors
non.
C'est pas ça.
Non.
Mais du Jim Beam, non?
Non, café.
Eddy Mitchell, j'ai appris d'autres choses sur vous. Je résume donc, on se lève, on ne se lave pas tout de suite.
Non.
On prend un café, on regarde un vieux film américain dans la salle de projection.
Oui.
On sourit à Poutine sur son papier journal et la journée est lancée.
Voilà. Une journée comme tant d'autres, monsieur.
Voilà, et c'est sa grandeur aussi. Vous allez passer chanter un matin chez nous ou pas?
Le matin, c'est pas la voix du matin, c'est chagrin.
Bon, alors le soir, mais ça sera chez moi, personnellement. merci, cher Eddy.
Mais je vous en prie, mon cher Eddy.
Très, très bonne journée, maestro.
Vous de même.
Non, 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 non. Non, 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 a dit Eddie Mitchell ce matin. Non, 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 dans la bouche d'Eddie Mitchell, c'est un peu comme peut-être dans la bouche d'autres, et ce peut-être, ça veut dire oui. Jamais on ne m'a autant dit oui que dans la salle de bain d'Eddie Mitchell ce matin. J'adore Saint-Preux, mais j'aime aussi Marie Misset.
Qui c'est qui a dit qu'elle travaillait pas, qu'elle fait que lire le journal? La revue de presse de Marie Misset.
Bonjour, bonjour tout le monde. Alors dans l'édito qui ouvre les pages...
Bonjour, bonjour Marie.
Oui, tu es en train d'enlever ton pull. Dans l'édito qui ouvre les pages éco et entreprises du Monde, Isabelle Chaperon cite la fable du scorpion et de la grenouille. Bon, je vous la fais courte. Les deux animaux sont coincés d'un côté d'une rive. Le scorpion propose à la grenouille de la guider. Si elle accepte de le prendre sur son dos, elle se méfie. La grenouille, elle est pas folle. Mais elle a pas le choix, alors elle prend le scorpion sur son dos. Résultat, ce qui devait arriver arriva. Le scorpion pique la grenouille et ils se noient tous les deux. C'est un suicide collectif engendré par le scorpion. Alors, avant leur dernier glouglou, la grenouille demande au scorpion « Mais enfin, pourquoi ?» Et il lui répond « Penaud. » Parce que c'est ma nature.
Absolument.
Voilà. Alors, ça dit peu de choses sur les pages éco du Monde, mais ça en dit beaucoup sur la vision de Jean de La Fontaine, pour qui pour qui on a une nature et espérer en changer, eh bien, c'est tout simplement ridicule.
Peut-on échapper à sa nature? Continue à nous téléphoner, c'est sûr.
J'aime exactement. Et on va commencer. Je vais vous donner des petits outils pour réfléchir à ça. En ce qui concerne Robert Ménard, par exemple, eh ben, on peut se dire qu'on peut changer. On peut être un jour, eh bien, président de Reporters sans frontières et le lendemain créer des milices ou vouloir instaurer le fichage ADN des chiens dans la ville de Béziers. J'ai lu ça dans Society, donc ça c'est possible. Dans un registre plus positif, heureusement qu'il y a des gens qui pensent que l'homme, la femme, le chien, peut-être pas le chien, peuvent changer. Et c'est le cas de Sylvie Nordheim dont le portrait est étalé dans La Croix. Elle présentait en novembre sa nouvelle pièce de théâtre au Théâtre National de l'Odéon. Parmi ses acteurs, 3 détenus, 3 condamnés. On les distingue facilement, dit-on dans La Croix. Ils ont l'air plus perdus et plus émue aussi. Elle-même a eu un parcours chaotique, elle a fait des fugues à répétition jusqu'à faire le fruit d'une recherche Interpol, d'où son envie, quand elle était prof, d'aller aider les élèves récalcitrants, les incompris, ceux qui ne sont pas dans le moule, ceux que les autres vouent à l'échec. Et puis plus tard, avec les prisonniers, elle les écoute et elle réussit pendant les ateliers de théâtre à leur faire retirer le costume qu'elle estime taillé par d'autres pour eux. À la fin de la représentation à l'Odéon, le père d'un des détenus est venu la voir. Il avait coupé les ponts avec son fils pendant des années et il lui a dit « Ce soir, vous m'avez rendu mon fils ». Ce qui pourrait nous pousser un petit peu plus loin dans cette réflexion sur la nature de l'homme. Est-ce que le fils était quelqu'un avant de devenir quelqu'un d'autre et retrouve-t-il sa nature première? Vaste débat que je vous laisse à vos feux de cheminée. Pour rester en tout cas dans cette thématique, on peut lire dans la revue L'Entretien, qui compile des entretiens de Laure Adler, celui avec Dounia Bouzard, spécialiste autoproclamée, écoutée, parfois décriée, de la déradicalisation. Elle rencontre les radicalisés dans des caves, dans des lieux toujours nouveaux. Elle les prend par surprise, leur fait rencontrer d'anciens repentis, comme Rachid Benyettou par exemple. On l'a longtemps présenté comme un des chefs de la filière des Buttes-Chaumont. Elle parle aussi de ceux qui sont revenus, qui seront stigmatisés à vie. Et elle dit à Laure Adler qu'il faut laisser un espace aux repentis, sinon ils en crèvent. Elle finit par dire « Pourquoi est-ce qu'on m'a donné de l'argent pour déradicaliser les gens d'un côté si on estime que les gens ne changent pas et que les terroristes, un jour, le seront toujours ?» Alors, David Thompson, pardon, que vous avez reçu lundi dans l'émission, qui a écrit aussi un livre sur ceux qui reviennent de Syrie, de Daesh, les revenants, bah lui, il a une réponse toute trouvée pour Dounia Bouzard, il nous l'a donnée ici. Si on lui donne de l'argent, eh bien, c'est pour donner l'impression qu'on fait quelque chose, un point c'est tout. Ah et bon, puis parfois, non, merci, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit.
C'était plus nuancé que ça.
Et puis parfois, on a beau changer, le passé revient comme un gros boomerang. C'est le cas de l'ex-espion Alain Maffard, condamné à 10 ans de prison dans l'affaire du Rainbow Warrior. Lorsque le bateau de Greenpeace a coulé, attaqué par les services secrets, un photographe militant est mort. Or, Alain Maffard, eh bien, il est en pleine reconversion pro et il est devenu photographe lui-même, photographe animalier. Il sera peut-être récompensé par le musée d'histoire naturelle de Londres comme photographe animalier de l'année. Autant dire que ça fait rugir Greenpeace. On a certes le droit de changer, mais les autres ont aussi le droit de se souvenir.
–
monsieur, mon passé, laissez-moi passer. Oui,
juste dire, je veux revenir sur le fichage des chiens à Béziers. Vous savez pourquoi c'est fait?
Non.
Pour
non.
les déjections canines, pour savoir qui a fait le,
c'est ça qui a fait le caca.
Qui a fait le caca pour, et les chiens sont fichés, donc l'amende sera.
En même temps, grâce à ça, ça évite les interrogatoires et les chiens qui mentent. Parce que je n'ai pas. Moi, non, c'est pas moi, c'est pas tout.
7h, 9h, plus près de toi.
De 7h à 9h, j'écoute plus près de toi.
Plus près de toi? Ah.
On comprend pas tout, mais c'est bien.
Allô? Je suis à l'antenne. Pat, je suis au Café Nova. Est-ce qu'il y a du monde ici? Il faut que les gens... Oui, il y a beaucoup de monde, parce que c'est la spéciale Ibrahim Malouf. Beaucoup de gens... Est-ce qu'il y a des gens qui étaient déjà hier soir à Bercy, non? Il y a des gens qui viennent de Bercy. C'était comment le concert hier?
Exactement, c'était extraordinaire.
Voilà, donc des gens, vous avez peu dormi, c'est l'intégrale Ibrahim Malouf. Pat, oui. Combien de cafés servis ce matin?
80.
Combien d'argent poché?
Rien du tout.
Zéro, voilà, c'est un cauchemar. Donc Ibrahim est en train de se préparer. On lui a confectionné, on t'a fait une loge, tu as vu?
Oui. Bah ouais, c'est très bien. Alors on peut faire des loges comme ça tous les jours pour moi et je serai vraiment c'est du bonheur. Il y a plein de trucs artistiques autour de moi.
C'est la loge de Mélanie Mallet.
Eh ben, elle a beaucoup de goût, je trouve. Vraiment, bah, merci de me mettre ici.
Comment tu fais là? Je me rends pas compte. Comment il faut s'échauffer avant de jouer?
Moi je chauffe pas beaucoup. Il y a des exercices que tu fais avec ta trompette, enfin avec l'instrument, comme un sportif qui va faire des exercices de chauffe, enfin des comment on appelle ça, des étirements.
Alors on y va, on s'en fait juste pendant qu'il envoie la musique, Armel. Comment on fait?
J'ai pas ma trompette parce que comme tu m'as posé la question dans le sens j'étais en train de m'entraîner mais j'étais pas du tout en fait en train de m'entraîner mais je voulais jouer le jeu parce que tu l'as dit. Gentil, oui. Voilà, tu vois, je voulais pas non plus te ridiculiser donc mais sinon je vois des exercices comme ça.
OK, ne faites pas ça chez vous. À tout de suite avec Ibrahim Malouf.
Radio Nova.
Une nouvelle trêve a été annoncée ce matin à Alep en Syrie. Difficile pour le moment de savoir si elle sera observée. En tout cas, les précédentes n'ont pas été respectées. Des centaines de milliers de civils restent donc bloqués dans la ville, dans l'attente d'être évacués. La situation en Syrie, mais aussi le dossier ukrainien avec la prolongation des sanctions envers la Russie et puis la crise migratoire également. Voilà ce qui sera au menu du dernier sommet européen de l'année. Les 28 pays membres de l'Union européenne ont rendez-vous aujourd'hui à Bruxelles. La colère des chauffeurs VTC, ils manifestent et donc bloquent depuis 6h ce matin la porte-maillot à Paris et les abords des aéroports parisiens. Ils souhaitent principalement une meilleure rémunération. Uber, numéro 1 de ce marché des VTC, a ouvert des discussions avec certaines organisations syndicales notamment, mais sans succès. L'Assemblée nationale s'est penchée hier soir sur le projet de loi consacré à la réforme du statut de la capitale et a adopté deux mesures. Les députés ont d'abord donné leur feu vert à la fusion des 4 premiers arrondissements de Paris et ils ont en outre autorisé à titre expérimental pour 3 ans la création de clubs de jeux. Les candidats socialistes à la primaire du PS ont jusqu'à ce soir pour se déclarer. 2 conditions pour cela. La première, réunir les parrainages nécessaires. La seconde, être à jour de ses cotisations en tant que militant. Alors ça, c'est pour les candidats socialistes. Les autres n'ont pas autant de contraintes. Telle Sylvia Pinel qui a confirmé sa candidature hier et qui représentera le Parti radical de gauche. Elle sera la seule femme de cette primaire et il y a 8 candidats pour l'instant. Chômeurs et cobayes, le Parlement finlandais vient de donner son feu vert pour tester auprès de 2000 personnes sans emploi le versement d'un revenu de base, une allocation de 560 € par mois. L'idée à terme, c'est de verser cette somme à tous les citoyens finlandais sans condition. Le projet faisait partie des promesses électorales du Premier ministre centriste du pays. C'est un projet qui a été largement adopté, 143 voix pour, 21 contre. Et à ceux qui trouveront que 560 € par mois de revenus de base, c'est beaucoup, on va préciser qu'une telle allocation mensuelle ne permet de vivre que très chichement en Finlande, où le revenu net disponible moyen dépasse les 2 200 € par personne et par mois. On reste un instant dans le Nord pour évoquer un record. L'Organisation météorologique mondiale a mesuré une vague à 19 mètres de haut. On n'aimerait pas être en dessous. Dans l'Atlantique Nord, c'est un record pour une vague océanique. Le phénomène a été observé et enregistré par une bouée automatique entre l'Islande et le Royaume-Uni. Le précédent record, c'était 18 mètres 275 et c'était en 2007. Plus d'un milliard de comptes d'utilisateurs Yahoo piratés. Le groupe a annoncé dans un communiqué avoir été victime d'une cyberattaque. C'était en août 2013, en précisant que les données bancaires n'auraient pas été affectées. Bordeaux, Monaco, Metz, Guingamp, Nancy et le PSG.
C'est très mignon, vous avez ce petit chat dans la gorge qu'on aime bien.
Très rapidement.
Il est très très mignon.
Bordeaux, Monaco.
Belfort, il a mangé des chats.
Oui. J'en ai, n'écoutez pas.
Bordeaux, Monaco, Metz, Guingamp, Nancy et le PSG ont rejoint Nantes et Sochaux en quart de finale de la Coupe de la Ligue. On connaît le programme des quarts de finale. Ils opposeront Sochaux à Monaco, Bordeaux à Guingamp, Nantes à Nancy, le PSG à Metz. Rencontres qui auront lieu les 10 et 11 janvier. Un mot enfin des championnats d'Europe féminin de handball quand même, puisque les Françaises réalisent un quasi sans faute. Elles ont battu hier soir la Serbie 28 à 21, ce qui leur permet d'accéder aux demi-finale de la compétition.
Le handball, c'est quel lancer de ballon? J'embrouille un tout petit peu entre le volley, le basket, le handball.
À la main.
Ah, mais la main, ensuite, elle va dans quoi? Le panier, il est où?
Non, ah, il n'y a pas de panier, c'est un
cage.
Dans les cages. Ah, attendez, attendez, on part de loin.
Ah, on part de très loin. Il part de loin. Tiens, il y a Brahim et Alpha qui sont là. Vous êtes venus pour écouter Ibrahim Alouf jouer tout à l'heure en direct.
Mais bien sûr.
Dis donc, alors vous êtes souvent aussi, on vous entend tout à l'heure avec Yacine Bellatar au 30 Glorieuses. Il est gentil, Yacine Bellatar.
Oui, il est très gentil. C'est un peu comme notre maman, quoi.
C'est ça. C'est plus maman parce que les gens se rendent pas aux auditeurs. Il est très souvent en robe pour l'émission. Alpha, ça te choque pas, toi, de voir un mec comme Yacine Bellatar présenter son émission en robe?
Non, ça reste un plaisir, surtout avec Thomas et nos parents.
Ouais,
Thomas,
c'est papa et maman, voilà. Mais c'est voilà, je suis content d'entendre ça. Tout de suite, le grand témoignage d'Ahmed Khelif parce qu'il est 8h33. Ahmed Khelif, depuis ce matin, vous avez écouté, vous avez humé l'air du temps, assisté de Christophe Méné à qui je coupe le micro. Et qu'est-ce que vous avez retenu de l'information
ce matin? Oui. Je voudrais qu'on revienne sur l'anniversaire de Kirk Douglas quand même, Kirk Lafossette.
Mais pourquoi vous voulez qu'on y revienne?
Parce qu'il a 100 ans quand même.
Ah, c'est pas tous
ans.
Les jours.
Voilà, oui. C'est pas tous les jours. Et puis il en reste deux, Olivia de Havilland qui vit à Paris et lui qui font partie des grands d'Hollywood. Voilà, c'est un petit hommage à Eddie Mitchell. Et juste conseiller pour les fêtes d'acheter Les Ensorcelés, The Bad and the Beautiful, ça s'appelle. C'est si vous voulez connaître tous les affres du métier de cinéma, producteur, réalisateur, regardez ce film, vous comprendrez tout ce qu'il faut faire pour entrer dans le show business.
Voilà. Et alors on peut l'offrir en l'empaquetant peut-être avec simplement un petit papier doré, avec un petit ruban.
Voilà. Et juste finir en disant que quand on a dit que vous avez 100 ans, qu'est-ce qui se passe dans votre vie? Et il a dit, j'ai un peu les boules d'avoir un fils de 73 ans. Voilà.
On est à Marseille, Bouchta, notre correspondant marseillais. Bouchta, un fils de 73 ans, c'est pas ton cas. Comment ça va à Marseille ce matin?
Ça va, mon poussin, très bien. Je viens à peine de me réveiller, je suis en train de rêver des cadeaux que je préparais à mon petit.
Qu'est-ce que tu vas lui offrir?
Je sais pas, déjà il ressemble à Playmobil, le petit.
Oui, donc autant, alors offre-lui, si tu as un Playmobil, il faut lui offrir un enfant, il faut faire le contraire.
Voilà, mais je voulais habiller déjà. Playmobil, ils ont beaucoup de petits habits là, qui s'accrochent, qui se décrochent et tout ça.
Mais ils n'ont pas de sexe, alors c'est pas la peine de les habiller, ils ne ressentent pas le froid, donc c'est peut-être pas la peine de les habiller, les Playmobil, si.
Oui, mais ça lui va bien, bon. C'est pas grave, ma poussette. Alors je vais lui acheter des jouets, je vais lui acheter des gâteaux, des chocolats, j'ai déjà préparé le menu.
Il y a des traditions à Marseille, parce que dans l'Est, il y a Saint-Nicolas, c'est quoi les traditions de Noël à Marseille? Il y a les fameux 13 desserts, ça existe encore?
Bravo! Ah ben oui, quand j'étais petit, ma mère, elle prenait un gros... Fabuleux, on fait le couscous, là. Ça s'appelle Gessan arabe, un gros plat. Oui. Au lieu de mettre du couscous, elle nous mettait les 13 desserts. Elle mettait les bonbons, les amandes, les noisettes, et les deux petits derniers, c'est nous qui devions mélanger le panier. Et après, on faisait des petits sacs avec une mandarine, papillote, chocolat. Les couscous là, on est devenu provençal, mon chéri. On s'adapte.
C'est bien ce mélange, c'est bien ce mélange, oui.
Oui, c'est les 13 desserts, on appelle ça les 13 desserts des rois mages. Quand Jésus-Christ est né, ils ont porté le l'encens, ils ont porté les 13 desserts de Provence.
Magnifique cette alliance de toutes ces cultures, toutes ces religions que tu as réalisées en toi, au Bouchta.
Voilà, mon poussin, ça va toi?
Tu vas te laver à quoi? À la provençale, à l'arabe, ce mélange arabo-provençalo, c'est quoi comme toilette?
Là, ma petite toilette, là, je me rince la figure avec de l'eau de rose et de l'eau de fleur d'oranger. On appelle ça l'eau de la chance. Comme ça, moi, j'ai de la chance pour le 2017, Inch'Allah.
Bonne chance, cher Bouchta, on t'embrasse voilà, très, très, très fort.
T'embrasse très fort, t'as entendu toute la semaine. Je suis en manque de toi.
Salut, je t'embrasse.
7h09, plus près de toi. Plus près de toi.
7h, 9h.
2h d'émission, mais c'est beaucoup trop court.
Alors qu'Ibrahim Malouf est en train de se préparer pour jouer ici en live dans le Café Nova, alors qu'Isabelle Roberts et Raphaël Garrigou sont en train de se préparer à nous parler des primaires socialistes, Jack souvent est dans la rue au cœur de ce qu'on appelle le réel. Alors, hein, je ne sais pas ce que c'est.
Au cœur. La Fontaine Saint-Michel, c'est le lieu des rendez-vous. Donc ici, il y a plein de gens qui sont en point fixe, qui attendent, qui trépignent.
C'est à Paris, dans le 5e arrondissement. Hein.
tout à fait, bravo. Et,
c'est parce qu'il y a des auditeurs.
Et donc, j'ai abordé un étrange personnage tout de noir vêtu avec une mallette.
C'est peut-être le diable.
Qui m'a dit qu'il était juste un petit peu avant le rendez-vous avec son éditeur. Bonjour, monsieur.
Oui, bonjour, je m'appelle Philippe Renaud, je suis un écrivain, un nouvel écrivain. Je viens d'écrire mon premier roman qui s'appelle Le Black.
Philippe Renaud,
et mon surnom,
oui.
C'est Le Prince. Oui. Là, vous êtes dans quel état intérieurement?
Oh, bah, il est
bien. Dans un état de nervosité extrême.
Oui.
Parce que je dois convaincre mon éditeur d'investir beaucoup d'argent sur la promotion de mon livre. Voilà, et le marketing.
Comment comptez-vous vous y prendre? Bonjour Philippe Renaud, Le Prince Black.
Comment m'y prendre? Je compte lui montrer le côté exceptionnel de mon aventure que je narre dans mon livre.
C'est vrai que souvent, de nos jours, l'œuvre ne suffit pas. Hein, le film, le livre, la peinture, la sculpture, il faut derrière aussi qu'il y ait un homme qui déploie des trésors de conviction et d'enthousiasme.
Exact, mais j'essaye d'incarner ce roman et j'aimerais bien aussi, comme vous l'avez dit, être adapté au cinéma et à la télévision.
Mais ça sera fait, Philippe Renaud. Est-ce que vous comptez tabler avec votre éditeur sur l'enthousiasme, le désir ou l'inquiétude pour le convaincre? On peut aussi lui faire peur.
Ah oui, c'est pas mal ça. D'ailleurs, une des critiques que j'ai eues sur ce livre, c'était que c'était un livre à ne pas mettre entre toutes les mains.
Ah, ça fait rêver, évidemment. Ceux qui n'y ont pas droit en veulent, c'est toujours pareil.
Exactement.
Plus on le met haut sur l'étagère, plus on a envie de l'ouvrir. Hein. C'est dans l'enfer de la bibliothèque. Black de Philippe Renaud est un roman dégueulasse, j'ai envie de le lire.
Moi, il me l'a remis, puis je l'ai dans les mains.
Oui, attention, ça brûle. C'est un brûlot, Philippe Renaud.
J'aimerais bien que ce le soit, Edouard. J'aimerais beaucoup.
Est-ce qu'on parle de la sexualité des hommes politiques et du travestissement dans les milieux du show business?
Absolument pas, parce que les médias parlent trop de la politique et j'ai voulu tout à fait...
Bon, ben, je le jette.
Jette mon livre. Jette mon livre. Ou bien, vole-le. Est-ce que vous pourriez dire, comme certains écrivains très riches, vole mon livre, ne l'achète pas?
Oui, je pourrais dire, lis-le et brûle mon livre.
Très bien, cher Philippe Renaud, moi ça me donne... Eh ben, vous savez quoi, j'ai envie de le lire, ça a marché, votre truc.
Mais je pense que votre ami va vous le remettre.
Merci, bonne balade, bon rendez-vous avec votre éditeur. Ça s'appelle comment, cette maison d'édition?
Ça s'appelle Les Rivages.
Eh bien, ça fermera dès demain. Salut, bonne journée. Salut à toi, homme qui marche près de la fontaine Saint-Michel avec des étoiles plein les yeux, avec des rêves plein la tête. Cette idée de prix Nobel. Mais non, c'est Bob Dylan qui l'a eu cette année. Il va même pas le chercher. Envoyez Philippe Renaud chercher le prix Nobel. Il y serait allé, lui. Bonjour Isabelle Robert, c'est Raphaël Garrigos.
Bonjour.
Bonjour. Vous avez dans les yeux ce fol espoir de changer les choses chaque matin. C'est un plaisir de vous voir. Les primaires socialistes, c'est votre sujet en ce moment dans les jours. On est au deuxième épisode de votre grande série qui s'appelle Les Grands Primaires et non pas Les Grands Primates. Hein.
Et oui.
Vous avez saisi le jeu de mots, c'est bien.
Vous avez vu, je suis d'une acuité. Alors qu'il n'est que 8h43 dans la vie. Alors, j'ai là la liste des gens qui se sont déclarés pour être candidats au Parti Socialiste, parce qu'aujourd'hui, c'est plus sur le Parti Socialiste que vous.
On a décidé de faire les putaclics et de s'intéresser à ceux qui vont perdre les putaclics.
Les putaclics. Ah oui, je ne connaissais pas. Qu'est-ce que c'est des putaclics?
Et les putaclics, c'est nous et c'est par exemple s'intéresser à ceux qui vont perdre la présidentielle 2017.
Ah, vous n'allez pas faire comme Al Kabbach, vous n'allez pas mépriser les petits candidats?
Ah non, ce n'est pas des petits candidats, il y en a des très gros, je ne sais pas.
Alors, je vais
François
vous dire...
Drugy, par exemple.
Alors je vais vous dire des noms. Voilà. Alors, personnalités ayant déposé leur candidature pour les primaires socialistes. Effectivement, François Drugy qui est président du Parti écologiste. Qu'est-ce que vous sentez sur lui, Isabelle Roberts ou Raphaël Garrigos?
En fait, là, le vrai enjeu pour François Drugy, ça va être de savoir qui va être dernier de la primaire entre lui, François Drugy, et Jean-Luc Benhamia, qui sont tous les deux issus à peu près de la même mouvance.
L'avantage de Jean-Luc Benhamia, c'est qu'il a une boucle d'oreille. C'est le seul candidat, donc ça peut attirer toute une frange d'électorat qui cherche de la fantaisie visuelle.
Exactement. Il a aussi écrit dans un magazine qui s'appelait Gueule ouverte dans les années 70, qui était un bon magazine, paraît-il, j'étais pas né.
Alors, plus sérieusement, parce que j'adore cette expression, plus sérieusement,
concrètement, Manuel Valls.
Que font les gens? Pourquoi est-ce qu'on se présente quand on sait qu'on fera maximum 2-3%? Si on veut exister, on veut être nommé ministre. Après, à quoi ça sert? Par exemple, Sylvia Pinel du Parti radical de gauche, à quoi ça sert de faire du bruit, d'attirer l'attention sur soi au lieu de se mettre au service de quelqu'un?
Sylvia Pinel, elle est là pour une seule raison, c'est que c'est une femme et c'est la seule. Donc voilà, on lui a ouvert grand la porte.
C'est vrai que c'est la seule femme.
Mais sinon, il s'agit là peut-être, puisqu'on nous annonce que cette élection est de toute façon perdue, de refonder un parti socialiste après la présidentielle. Certainement, je vais vous faire une analyse à Thomas Legrand.
Moi, non. Ce que j'aime bien, c'est les gens qui disent tout le temps on pense à l'après. C'est qu'on a l'impression que chaque élection. Non, non, mais c'est pareil pour les présidentielles américaines. Ils disent non, non, de toute façon, c'est évident qu'elle sera élue, Hillary Clinton, on pense à l'après. Pour
je
les
suis
élections.
Dans l'après.
Laissez faire Raphaël son analyse. Il a une analyse très poussée sur les courants de la gauche. C'est très chiant aussi.
Raphaël Garrigou, je l'ai perdu. Moi, j'aime bien les analyses chiantes. Ici.
Donc l'arrivée de Vincent Peillon, qui inaugure donc l'apparition d'une nouvelle tribu socialiste, les Peillonistes, composée de Hollandais, de Aubrystes et d'Hidalgoïstes.
Fallait le laisser pas faire en fait. Dites
un
truc n'importe quoi.
Un tout petit peu content de vous.
Donc, comme on a fait, comme c'est une spéciale trompette aujourd'hui.
Oui, il y a beaucoup, parce que oui, il y a Ibrahim Malouf. Mais dites-moi, donc pourquoi est-ce qu'il y a une seule femme? Même à droite, il y en avait plus?
Non.
Non, en fait.
Bon, mais alors, il y en a où? Barca Gige qui est dans le studio. Vous avez vu des femmes se présenter, Barca, vous?
Pas beaucoup.
Pas beaucoup. Vous en auriez voulu plus?
Oui.
Pourquoi?
Parce que ça représenterait un peu la France.
Mais pourquoi on ne représente que soi-même, vous savez, dans la vie?
Que comme c'est vrai que la dernière primaire socialiste, on avait Martine Aubry, Ségolène Royal, non, pas Sylvia Pinel, déjà.
Non, il y avait Jean-Michel Baillet.
Alors, par exemple, dans les gens qui se présentent, qui sont déclarés, qui ne sont pas encore candidats exactement, il y a Gérard Filoche. Qui représente-t-il à part lui-même?
Oh non, il représente un peu plus que ça, Gérard Filoche. Il représente quand même l'aile gauche, comme on dit, oui. du Parti Socialiste, l'aile très à gauche, et une candidature vraiment anti-Valls, d'ailleurs, que partage d'ailleurs tout l'ensemble des candidats à la primaire.
Montebourg, vous avez vu, il a bossé. Hein.
Oui, non, vous avez bossé. Écoutez, en gros, vous nous dites qu'il faut tout suivre dans les jours et que là, on fait
exactement.
Juste l'écume
oui,
des choses. Là.
Voilà,
l'écume des choses.
Bien sûr. Merci beaucoup, Isabelle et Raphaël. L'écume des choses. Tout de suite, il y a Ibrahim Malouf qui se prépare. Je baisse la voix pour que les gens se rapprochent de leur poste. Et quand ils sont très proches de leur poste de radio, hop, je les attrape par le col.
Sur Nova, c'était The Bongo Hop à l'instant avec Tite Jeanne. Et revoilà Edouard Baird qui rentre en courant dans le studio.
Qu'est-ce qui se passe? Edouard, on est sérieux.
Atman et Christophe, venez avec moi. Atman, Kelly, Christophe Médé. Là, ce sont les 10 dernières minutes de l'émission. Armel, vous étiez au concert d'Ibrahim Malouf hier soir.
Tout à fait.
Racontez-moi.
Alors, vous êtes déjà allé voir un concert une fois dans votre vie?
Oui.
Parfois, il y a quelques personnes qui sont là, qui applaudissent gentiment. Là, il y avait 17 000 personnes. Faut vraiment le vivre. Hein. C'était Ibrahim Malouf ou les Rolling Stones. Je suis pas encore très sûr. Un très grand spectacle. 200 musiciens sur scène ou peut-être 300 ou, enfin, en tout cas, énormément. Des choristes. Une reprise de Beyoncé par là. Des Batucada à un autre moment. C'était vraiment du très, très grand spectacle. Je suis ravi d'y être allé hier soir.
Ah, formidable. D'ailleurs, vous n'avez plus de voix. À un moment, vous avez peut-être dit ouais! Et ça
trop
vous a
fort,
cassé la voix. Il a dit ouais trop fort. Voilà, et puis la vie l'a puni, mais vous serez venez avec moi, Atman et Christ. Je vais dans le Grand Café Nova. Est-ce qu'il y a du monde ici? Ah, ouais, énorme. C'est tout ce que j'aime, moi. J'aurais rêvé de faire ça, de chauffeur de salle. C'est, comment je n'ai pas bien entendu? Ça me rend dingue, ça. Donc vous avez fait une pause entre. Vous avez juste François et Ibrahim, vous avez juste cette petite pause sur les quais. Maintenant, vous revenez à la vie normale, c'est-à-dire devant des milliers de personnes. Comment c'était les quais? Tiens, je vais demander un petit peu à François, le guitariste. C'était comment ces retrouvailles sur les quais après 10 ans de tournée?
Ben, surtout juste après, merci, ça tranchait pas mal, vu qu'on a vu un maître chien et une camionnette de police, c'est à peu près tout.
Alors justement, entre jouer devant 17 000 personnes et jouer pour un maître chien, pour deux artistes, quelle est la différence?
Mais il n'y en a pas. Si le maître chien apprécie la musique et si les 17 000 personnes détestent, je préfère jouer pour le maître chien.
Est-ce que la musique Amadou, les animaux, est-ce que tu as senti dans le chien, est-ce que vous pouvez transformer un berger allemand en caniche?
Non, c'était le. Non, on n'a rien contre les maîtres chiens, voilà, je voulais juste préciser parce que je ne veux pas avoir de problème avec.
On a tous été maîtres chiens, on le sera un jour, il n'y a pas du tout. Non, mais pourquoi quoi vous pensiez? Il y a un truc dans votre œil qui passe bien en radio en ce moment. Il y a un truc. Donc là vous avez la gentillesse. Il vous reste un peu de souffle et un peu de doigt pour faire de la musique avec nous ici?
Ben, en fait, avec François, on avait envie de fêter ce Bercy en allant tous les deux sur les quais. Juste, voilà. En fait, on n'a pas dormi. On est, voilà. C'est pour ça qu'on n'a pas l'air très frais. Hein. C'est pour ça que je préfère le.
Non, vous êtes superbe.
C'est pas frais du tout.
Moi, je suis lèche-cul.
T'as dit c'est pas vrai du tout, c'est pas frais du tout.
Alors, on va recentrer tout, on va tout resituer grâce à Rudy, qui est notre grand amateur spécialiste de musique ici. Ça va, Rudy?
Très bien.
C'est
toi,
le mec
Edouard.
À 4 mètres, c'est moi. Je suis à 4 mètres de toi, je lève le bras.
Bonjour Ibrahim, quand vous parlez de votre combat pour remettre au goût du jour l'improvisation, vous le définissez comme un encouragement pour apprendre aux gens à jouer ensemble, pour redonner aux gens l'envie de s'écouter les uns les autres. Oui, nous pouvons, avec nos belles différences, nous parler d'une même voix. Ibrahim Mahalou, vous n'êtes pas ce matin chez notre radio petite sœur TSF qui vous a toujours défendu, mais bien sur Radio Nova. Vous nous faites cet honneur d'être ici le lendemain de cette tournée de 10 ans de live, le lendemain après avoir été le premier jazzman à remplir un Bercy depuis Miles Davis en 84. Ibrahim Mahalouf, il suffit de se rendre à l'un de vos concerts ou d'être là ce matin pour voir le plaisir, le bonheur que vous procurez au monde, qu'il soit 7500 dans la fosse ou 200 sur scène, 200 de vos élèves, de vos amis musiciens qui vous accompagnaient hier soir. Ibrahim Mahalouf, vous faites du bien au singulier, avec générosité, au naturel, sans fausse note. Vous avez réussi à vulgariser, dans le bon sens du terme, la musique instrumentale en la faisant devenir langage. Vous arrivez à arrêter le temps, alors espérons qu'il s'arrête quelques instants à 4018 km d'ici et que les enfants et innocents d'Alep entendent ces quelques notes que vous allez nous faire.
Mais hier soir, merci beaucoup. Hier soir, on a eu une pensée pour Alep et il y a un morceau qu'on a joué hier qui s'appelle Beyrouth et je l'ai rebaptisé hier soir Alep pour qu'on ait une pensée pour les Syriens. Et sinon, par rapport à Miles Davis et Bercy, je peux dire un truc ou pas? Un truc vraiment pas du tout politiquement correct. Mais j'ai envie de le dire parce que sinon personne ne le dit. En fait, en vrai, et on peut se la raconter un peu.
Oui,
ou pas,
vas-y. Je sais ce que tu veux dire.
En fait, en vrai, Miles Davis n'a pas rempli Bercy.
Et ils étaient en
déjà
trio.
Pour commencer. C'était un triple plateau.
Triple plateau.
Donc, si je peux le dire, en fait, on est les premiers dans l'histoire du jazz en France à remplir Bercy. Voilà, merci.
C'est pas bien. C'est d'autant plus dommage que d'habitude, après les présentations de Rudy, il y a toujours un mec du ministère qui arrive. J'ai l'honneur de vous faire chevalier la Légion d'honneur. C'est toujours ça, les textes de Rudy.
C'est comme ça qu'il faut terminer l'année. C'est très beau,
Rudy. Tu es un prince des mots.
Merci.
On vous écoute, messieurs, merci.
Lily. Thank you.
Ibrahim Malouf, accompagné de François Delporte, Lily.
7h, 9h, plus près de toi.
7h, 9h, Édouard Baer.
Plus près de toi.
Plus près de toi, une émission extrêmement racoleuse.
J'aurais voulu vous dire au revoir avant la pub, comme ça vous auriez pu croire que la pub faisait pas partie de l'émission. Mais je vous dis au revoir maintenant, merci beaucoup, on se revoit que l'année prochaine. Je vous souhaite donc d'être quand même assez heureux d'ici là. Merci. Et puis voici Yacine et Thomas. Quoi.
Tu es en vacances, Edouard ?
Non, pas du tout. Je vais préparer l'émission pour 2017. Ah. Voilà, je vais en stage. Oui, bravo. Oui, oh, ah, bah, oui, oui. Bah, oui.
Bravo. Merci, messieurs. Bravo à vous. Bravo.
Edouard Baer.
7h-9h.
Plus près de toi.
Point final.